Monsieur le professeur, tout d'abord, merci de nous recevoir ici, chez vous, à Vincennes. On est en train de vivre, à distance, mais quand même avec une certaine inquiétude, cette relation très tendue entre la Corée du Nord, les États-Unis et d'autres pays. Est-ce que ce spectre de la guerre nucléaire, hein, vous en parlez, Hiroshima, la thanatocratie, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que c'est quelque chose qui va un peu contre votre optimisme? Est-ce que...
Oui, j'y pense beaucoup, bien entendu. La réaction que j'aurais vraiment devant cet événement, c'est que nous n'aurions jamais cru que le fou qui pourrait déclencher une apocalypse pareille serait le président des États-Unis. On se disait, ça sera un fou quelque part, etc. Mais que ce soit vraiment le chef de la plus grande puissance du monde et surtout de la puissance nucléaire, puisque je crois qu'ils ont 2600 ou 6000 têtes nucléaires, alors que les autres en ont 5 ou 20. La France en a 200, je crois, une chose comme ça. Bon, que ce soit vraiment le chef des États-Unis. Et ça, c'est quand même très surprenant que ce soit. On aurait quand même pensé que c'était des gens plus sages, quoi. Voilà. Et je ne pense pas que le péril soit immédiat. Je pense qu'il y a beaucoup de rodomontades là-dessus, c'est-à-dire beaucoup de paroles, etc. Pour le moment, j'ai pas très peur. Mais ma surprise vient de là, voilà.
Donc, vous dites un fou aux États-Unis. Bon, on a plutôt tendance à dire que le fou est en Corée du Nord, avec des provocations, de lancement de missiles, explosions nucléaires, etc. Vous ne pensez pas que le problème est plutôt là?
Non, je crois pas. Oui, celui qui est à la tête de la Corée du Nord est évidemment fou dangereux, il n'y a pas de doute. Mais c'est pas ainsi qu'on doit répliquer à un fou dangereux. Et par conséquent, si un fou dangereux répond à un fou dangereux, alors là, ça devient dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Et par conséquent, c'est du côté des États-Unis que le problème doit se poser. Voilà.
Voilà, monsieur le professeur, vous avez plutôt tendance à voir dans la période actuelle une période de paix. C'est une thèse qui est assez contestée malgré tout, mais est-ce que vous êtes toujours convaincu que nous vivons dans une période, vous avez naturellement vécu la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous êtes vraiment convaincu qu'on vit dans une période meilleure, une période de paix, que votre optimisme donc a une véritable raison d'être? Si on pense à la Syrie, etc., tout ce qui se passe.
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la paix nous concerne d'une certaine manière, l'Europe occidentale et l'Occident en général, et même le monde, parce que quand même la guerre n'est pas déclarée ni en Chine ni en Inde, etc. Bon, c'est vrai que depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus eu de guerre qu'on appelle symétrique. On appelle guerre symétrique une guerre qui oppose deux puissances de valeurs équivalentes, comme autrefois la France et l'Allemagne, ou les États-Unis et le Japon. Des guerres de ce genre, des guerres symétriques, ça fait en général des morts. C'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale a fait, je crois, 45 millions de morts. Vous voyez, le simple bombardement de Dresde a fait 200 000 morts, par exemple. Vous voyez. À côté de ça, les guerres auxquelles nous assistons sont premièrement en général des guerres civiles, pour commencer, des guerres intérieures, et d'autre part, alors évidemment, je n'ai pas le cœur complètement sec, je m'incline devant les victimes, mais du point de vue numérique, si vous regardez sur Internet et si vous tapez cause de mortalité dans le monde, vous obtiendrez un tableau qui vous donne de façon décroissante le nombre de victimes. Voyez? Et si je pose la question, quelle est la dernière des causes de mortalité dans le monde aujourd'hui? Et c'est-à-dire en dessous de 1% de tous les morts qui actuellement sont dans le monde, vous avez guerre, violence, terrorisme. Voilà. C'est-à-dire ce tableau qui est fait avec des chiffres, qui sont des chiffres officiels des grandes entreprises, des grandes organisations internationales, me donne complètement raison. C'est-à-dire en effet, je ne sais pas moi, par exemple. La guerre de Syrie a fait, je crois, 200 ou 300 000 morts en ce moment, je crois, sur 5 ans, n'est-ce pas? Je crois
Des
que
400 000.
400 000, oui, c'est ça. Savez-vous, par exemple, que la répression de la Commune faite par M. Thiers en une semaine a fait plus de 100 000 morts. On a l'impression, si vous voulez, que là, la guerre de Syrie est plutôt humanitaire. Oui, oui, oui. Non, les chiffres sont écrasants. Les chiffres sont écrasants. Les gens n'y pensent pas parce qu'à la une de tous les journaux, il y a marqué que c'est la guerre. Ce n'est pas vrai. Nous sommes en paix. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire les tableaux dont je vous parle sont des tableaux complètement officiels.
Voilà. Et alors parlons un peu de
Et cela fait, si vous voulez, si on fait des statistiques réelles que j'ai fait dans mon dernier livre, qui s'appelle « La philosophie de l'histoire », on s'aperçoit que de 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, l'humanité a été en paix 5% du temps. 5% du temps. Et que la paix d'aujourd'hui, qui dure depuis 65-70 ans, est un événement unique dans toute l'histoire, bien avant l'invention de l'écriture. Par conséquent, nous vivons en effet une période absolument exceptionnelle, et tout le monde est conscient de l'inverse. C'est étrange. Enfin, la philosophie consiste quand même à dire la vérité.
Voilà, donc vous avez plutôt l'impression que l'information va dans le mauvais sens. En réalité, c'est une information qui ne correspond pas à la réalité.
Si elle correspond à la réalité, l'information est juste. C'est vrai qu'il y a eu 13 morts à tel endroit, ou 300 morts à d'autres endroits. Mais elle ne dit que ça. Elle oublie de dire que par rapport à ce que nous avons connu, c'est-à-dire des millions et des dizaines de millions de morts, eh bien, il n'y a pas photo, comme on dit, vous voyez. C'est-à-dire, il y a toujours eu dans les temps de paix des attentats de ce genre. Voilà.
Vous avez cité un livre, je voulais commencer par un autre livre, Le gaucher boiteux. Et vous dites à un certain moment, c'est une phrase très belle, pour penser devient un arbre. Est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs ?
C'est-à-dire que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi j'ai dit le gaucher boiteux, peut-être c'est parce que je suis gaucher et que en vieillissant je boite un peu peut-être, mais non, pour dire simplement que toute innovation, on en parle beaucoup aujourd'hui, ou toute invention d'une certaine manière, vient d'un décrochement par rapport à la ligne ordinaire ou usuelle. Et que n'importe quel inventeur ou n'importe quel innovateur a été un peu à l'écart, a fait un écart à l'équilibre, a fait une distance par rapport à ce qui se faisait d'habitude. Et c'est vrai dans l'histoire des sciences aussi bien que dans l'histoire en général. Par conséquent, voilà, quand on dit revient un arbre c'est une multiplicité de branches, c'est-à-dire une multiplicité de bifurcations. Et c'est cette bifurcation à laquelle je faisais allusion, voilà.
Et donc, point de vue, disons, on pourrait imaginer c'est quelque chose contre la méthode, hein, que vous avez, à un certain moment, vous parlez aussi du concept anglais de sérendipité, et donc c'est un peu le hasard aussi, c'est un peu le désordre qui permet la pensée d'inventer.
Mais il y a une expression peut-être plus précise, ça s'appellerait la docte ignorance, vous voyez. Et la docte ignorance est une idée qu'a eue un renaissant autrefois, et qui consiste à dire, voilà, il faut savoir énormément de choses, avoir appris beaucoup de choses, mais à un certain moment, il faut l'oublier. Vous voyez, on oublie sa propre culture, on oublie sa propre expertise pour tenter autre chose. C'est moins le hasard qu'une sorte de démarche un peu exceptionnelle, vous voyez. Les grands écrivains ou les grands compositeurs de musique savent ça. C'est-à-dire, ils savent le latin, ils savent le grec, ils savent le hébreu, ils savent l'histoire, ils savent tout ce que c'est. Et ils écrivent le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Oui, c'est-à-dire...
Si vous voulez répondre...
Oui, d'accord.
Vous prendre donc ce concept.
Oui, je dirais la docte ignorance, simplement, parce que, en effet... Les grands écrivains, je ne parle pas des grands scientifiques, ça serait plus difficile si vous voulez, mais je prenais l'exemple tout à l'heure. La docte ignorance, c'est l'auteur, c'est beaucoup de très experts, il est très érudit, très savant, il connaît le latin, le grec, l'hébreu, n'importe quoi, etc. Mais il écrit simplement. Hein, le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Voilà. Par conséquent, il sait beaucoup de choses, mais il fait dans son œuvre comme s'il l'avait oublié. Ouais, c'est ce qu'on appelle la docte ignorance. En science, c'est la même chose. Un des plus grands génies du XXe siècle s'appelle Max Planck, que tout le monde connaît, Mais Max Planck était un physicien classique qui croyait à la continuité, qui croyait, etc. Et tout d'un coup, il s'est aperçu, sur une expérience qui s'appelle le corps noir, qu'il fallait penser à la discontinuité, et il invente les quanta, qui n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec la physique qu'il connaissait, et il n'y avait pas de plus grand spécialiste que lui sur cette vieille connaissance. Donc, ce n'est pas tout à fait du hasard, vous voyez. C'est-à-dire, c'est un homme qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup cherché, et qui tout d'un coup suspend son jugement. C'est formidable, hein, voilà.
Alors, vous avez parcouru beaucoup de domaines, presque tous, hein, de sciences, philosophie. Vous dites en gros que, voilà, c'est quand même, il y a cette approche. Ça me rappelle un peu Edgar Morin aussi, cette idée de voir le monde, pas, disons, d'une façon spécifique par chaque domaine, mais d'essayer de trouver donc, les connexions, etc. Mais la question est, donc c'est la philosophie n'a pas une véritable spécialité, mais comment elle peut tenir en main pour le grand récit tous ces domaines? C'est quand même quelque chose de, c'est immense.
D'abord, elle ne peut pas, mais elle doit le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons une période assez grave à ce point de vue. C'est-à-dire tous les gens qui nous gouvernent, tous les gens qui ont la parole dans les médias, tous les gens qui sont, si vous voulez, qui ont la parole, si vous voulez, sont tous formés exclusivement aux sciences humaines. Exclusivement aux sciences humaines. Et par conséquent, en effet, ils posent beaucoup mieux la question. Ils ne posent pas la question « l'aspirine est-elle efficace ?» Ils posent la question « combien de personnes pensent que l'aspirine est efficace ?» Vous voyez, c'est ça les sciences humaines, c'est ça le sondage sociologique. Eh oui, mais il y a une science qui s'appelle la médecine, une science qui s'appelle la pharmacologie, une science qui s'appelle la physique, les mathématiques, où vraiment l'opinion n'a pas beaucoup de valeur. Et par conséquent, si vous ne tenez pas les deux bouts, vous n'êtes pas un philosophe. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, Pascal disait « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Mais il parlait des mœurs, des institutions et des lois, c'est-à-dire des sciences humaines, en gros, qui n'avaient pas paru à l'époque. Voyez. Mais d'autre part, il était mécanicien, physicien, mathématicien, et il savait ce que c'était que la vérité démontrable.
Voilà, un peu comme vous.
Vous avez d'un côté, et il faut tenir les deux bouts, voilà, c'est ça. Si vous ne tenez pas les deux bouts, le concept de vérité se met à flotter, voilà. Et il passe du côté de l'opinion.
Mais c'est pour cela que vous n'avez jamais voulu appartenir à un courant spécifique, un peu comme Simone Veil que vous citez à un certain moment, donc cette idée de travailler presque en solitude, quoi.
Oui, parce qu'effectivement, les philosophes qui avaient du succès ou qui avaient de l'importance ou qui étaient très lus de façon contemporaine ou qui le sont encore, sont des gens qui sont justement de la variété dont je parle, c'est-à-dire exclusivement formés aux sciences humaines. Et vous l'avez observé, ils ne font que déconstruire la vérité. C'est-à-dire, pour eux, la vérité, c'est simplement une opinion, ou même que la folie, qu'est-ce que la folie? C'est simplement l'enfermement social. Ou qu'est-ce que c'est que la science expérimentale? C'est simplement des querelles entre les laborantins, et ainsi de suite, vous voyez. Et non, c'est qu'il y a une vérité. Il y a une vérité démontrable, mathématique ou expérimentable dans les sciences exactes, etc. Voilà, il faut tenir les deux bouts. C'est ça que j'ai essayé de faire.
Vous écrivez, et là je vous demande justement d'expliquer un peu pour nos auditeurs, l'importance d'un événement ne tient pas au bruit qu'il fait, mais la durée qu'il interrompt. Donc on a l'impression donc, de vivre un moment historique, par exemple la fin de l'agriculture, vous dites même de la révolution industrielle.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire... le bruit qu'elle fait, c'est simplement le succès. Et nous avons l'expérience que les gens qui sont au succès, ben on les oublie assez vite, vous voyez. Bon. Tandis qu'en effet, un événement qui rompt une chaîne précédente est un événement considérable. Par exemple, lorsque Fleming invente la pénicilline, tout d'un coup, la société va réagir de façon violente à cette affaire, et l'augmentation de l'espérance de vie va être verticale à partir de ce moment-là, puisque les maladies infectieuses sont vaincues, vous voyez. Donc ils rompent une habitude médicale, si vous voulez. Lorsque Turing invente les machines de Turing, c'est-à-dire les ordinateurs, ils rompent avec les manières d'avoir des relations les uns avec les autres. Donc ils changent complètement la société. voyez, donc il est vrai, en effet, qu'un événement considérable rompt une suite ordinaire. Voilà.
Par exemple, l'entrée dans l'ère du numérique est quelque chose d'extrêmement important. Vous dites, bon, il y a eu l'oralité, l'écriture, l'imprimerie, et là, donc, on serait dans une nouvelle phase. Oui. Mais pourquoi c'est si important pour l'individu, par exemple ?
Mais c'est très important pour plusieurs raisons qui sont évidentes et qui sont vécues aujourd'hui par tout le monde. Et il faut avoir vécu l'ère d'avant pour voir la différence. Par exemple, je ne sais pas, quand un marin partait à la voile, ou même avec, quand on a inventé la marine à vapeur, ben, il partait et les gens, ils ne pouvaient jamais donner de nouvelles, jamais, jamais, jamais. Par conséquent, on l'attendait pour quand ? Pour dans 8 jours, pour dans 2 mois, pour dans 3 ans ? On n'en savait rien. Par conséquent, il n'y avait pas de communication. Je me souviens d'une époque où, de ville à ville, on n'avait pas de nouvelles. Moi, j'habitais le sud-ouest de la France, mais les nouvelles de Paris, vous savez, on ne connaissait pas beaucoup. Hein, bon. Et aujourd'hui, tout est comprésent, tout est une sorte de présence. Vous voyez. Alors, ça a des inconvénients, certainement, mais l'avantage énorme, si vous voulez, c'est l'accès à l'information, l'accès même aux bibliothèques, l'accès au savoir, l'accès, etc., et qui a quand même bouleversé complètement à la fois le côté cognitif de connaissance et le côté relationnel.
Comme vous avez cité le sud-ouest de la France, juste, vous avez utilisé quelque part, je ne me rappelle plus où, cette image de la Garonne, hein, de traverser la Garonne, la peur de ne pas arriver de l'autre côté. C'est quoi cette métaphore ?
La métaphore consiste précisément dans la rupture en question. C'est-à-dire, quand vous traversez un fleuve à la nage, entre le moment où vous partez, et quelques temps après, vous pouvez vous dire « je peux toujours revenir en cas de pépin ». Et quand vous êtes assez proche du rivage opposé, vous pouvez vous dire « il ne me reste plus grand-chose pour avoir pied ». Mais quand vous êtes au milieu, il existe un moment où vous ne pouvez plus vous dire « ni je reviens en arrière, ni je reviendrai en avant ». Voyez ? Et c'est le moment de la bifurcation dont je parlais tout à l'heure. Voyez, se mettre assez en danger à un moment pour dire, ben voilà, je ne vais plus avoir pied, et qu'est-ce que je vais faire maintenant avec mon savoir, ou etc. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure la bifurcation, c'est le moment d'équilibre au milieu, voyez, le moment d'équilibre au milieu, où on n'a plus de certitude, ni en arrière, ni en avant.
Et je voulais vous poser encore une question justement sur le sud-ouest, sur le fait que bon, vous avez eu un parcours qui l'école normale sup, mais aussi la marine, vous êtes allé à Suez, etc. Donc c'est assez singulier par rapport à, je ne sais pas, vous citez par exemple Althusser ou les philosophes qui allaient dans une direction. Vous, c'est déjà un peu l'arbre, c'est déjà un peu dans votre vie, cet arbre, ça part un peu dans tous les sens et c'est important. Parce que vous avez touché aux sciences, vous avez touché à la vie réelle, à la philosophie, à l'histoire.
Oui, oui, c'est vrai, mais enfin bon, je ne suis pas là pour raconter ma vie. Simplement, j'ai essayé d'avoir une vie de philosophe. Quoi. C'est-à-dire, si vous ne faites pas les 3 tours du monde dont j'ai parlé quelquefois, à la fois connaître les pays, c'est-à-dire avoir vu à la fois des icebergs, des baleines et l'Amérique du Sud ou le Cap Horn, bon, ça va, il faut l'avoir fait, ça. Ensuite, avoir fait un deuxième voyage, à travers les sciences, c'est-à-dire connaître, enfin on ne peut pas tout connaître bien entendu, mais enfin savoir quand même des mathématiques, de la physique, de la biologie, etc., les sciences humaines, et puis ensuite le voyage humain, c'est-à-dire ne pas ignorer qu'on peut vivre comme un prolétaire, qu'on peut vivre comme un misérable, qu'on peut vivre comme un ambassadeur, qu'on peut vivre comme un professeur, et ainsi de suite, vous voyez. Ces 3 voyages-là, me paraissent très importants pour la vie philosophique.
Des fois, en vous lisant, vous avez un langage très riche, un style même littéraire. Vous citez souvent Montaigne ou Zola, donc vous êtes entre les deux, quoi, entre la philosophie classique et puis la littérature, c'est important pour vous.
Mais la littérature est intéressante parce que justement, elle parle de choses vécues, elle n'a pas l'abstraction de la philosophie. Mais ce qui me paraît étrange, c'est de la séparer de la philosophie. chez nous, dans la tradition de langue française, qui est la vôtre comme la mienne, il me semble, d'ailleurs, la langue italienne est, la même, est de la même, de même état, si vous voulez. Et est-ce que Diderot est vraiment écrivain ou philosophe? Est-ce que Voltaire est vraiment écrivain ou philosophe? Est-ce que Montaigne est vraiment écrivain ou philosophe? Et ainsi de suite, vous voyez. Oui. Et par conséquent, dans la tradition de philosophie de langue française, il n'y a pas de séparation entre les deux. Cette séparation est simplement un artefact universitaire. Mais les littéraires sont très gênés, en effet, d'expliquer Montaigne, et les philosophes sont presque honteux d'expliquer Diderot. Voyez. Mais quel est le meilleur traité sur le hasard que le roman Jacques le Fataliste? C'est absolument merveilleux sur le hasard et la nécessité, vous voyez. Et par conséquent, non. Si on fait ça, c'est que peut-être on est fidèle à la tradition de la philosophie en langue française.
D'ailleurs, l'autre jour, je cherchais les essais de Montaigne et je les ai trouvés, pas dans le rayon philosophie, mais dans le rayon littérature.
Exactement. Oui. Exactement. C'est-à-dire, d'ailleurs, qu'il soit dans un rayon ou dans un autre, c'est une erreur dans les deux cas. Il est des deux, vous voyez. Et beaucoup, je le répète, beaucoup d'écrivains de langue française sont dans ce cas. Voilà.
Cette idée donc du grand récit, c'est où vous venez de publier la philosophie de l'histoire. Bon, ce qu'on peut se demander aussi, est-ce que ça a un sens? Parce que quand on pense à la philosophie de l'histoire, on pense à Hegel, etc. Donc il y a quand même un sens de l'histoire. Est-ce que l'histoire a un sens pour vous?
Alors, quand je dis grand récit, c'est d'abord pour me moquer de certains philosophes qui disent que c'est fini le grand récit. Non, non. C'est simplement le fait que, depuis quelque temps, toutes les sciences savent dater leurs objets. C'est-à-dire aujourd'hui, non seulement les biologistes savent décrire et donner des lois pour les questions concernant les cellules, les tissus, les molécules, etc., mais ils savent dater à quelle époque a commencé la vie, 3 milliards, 800 millions d'années. On sait dater l'arrivée des espèces et la fin des espèces et leur évolution, etc. Les géophysiciens savent dater l'émergence de la Terre, les cosmologistes savent dater le Big Bang de l'univers, 15 milliards d'années, et par conséquent, si on met à la suite toutes ces grandes découvertes de datation, alors on obtient un récit, n'est-ce pas, qui est beaucoup plus riche que l'histoire elle-même, voyez. C'est-à-dire, nos ancêtres historiens avaient derrière le dos 4-5 000 ans, s'ils savaient de grec, s'ils savaient de l'hébreu, s'ils savaient de l'assyro-babylonien, etc. Vous voyez, aujourd'hui, un véritable homme cultivé a derrière le dos 15 milliards d'années, n'est-ce pas? Et alors on m'a dit, oui, mais ce n'est pas de l'histoire. Attention, l'histoire commence avec l'écriture. Et qu'est-ce que c'est l'écriture, sinon le décodage d'une marque? Et oui, mais il se trouve que toutes les sciences ont pu dater leurs objets en décodant des marques. Évidemment, je ne sais pas, je vais prendre un exemple au hasard. Vous le savez sans doute, quand on regarde une roche volcanique, eh bien, elle contient en elle l'état du système magnétique de la Terre au moment où elle a cristallisé. Donc, c'est un livre dans lequel on peut lire l'état du magnétisme terrestre à telle date. Vous voyez, on date en lisant une marque. Et par conséquent, si l'histoire commence avec l'écriture, eh bien, elle commence il y a 15 milliards d'années. Et par conséquent, là, il y a un récit enchaîné qui n'est pas du tout un récit qui a du sens, puisque c'est vraiment bifurquant chaque fois, c'est-à-dire au hasard chaque fois, au hasard, enfin, inattendu et imprévisible chaque fois. Mais enfin, c'est un récit. D'ailleurs, un récit, c'est toujours imprévisible, autrement, c'est emmerdant.
Mais en même temps, vous dites que le philosophe anticipe, quoi. Et donc, on peut imaginer qu'il y a quand même une direction, qu'en étudiant, en mettant en relation les divers domaines, on peut comprendre où nous allons, quoi.
C'est vrai, parce qu'en effet, j'ai été beaucoup critiqué quand j'ai commencé par Hermès en disant la société de demain sera une société de communication. J'ai été vraiment abreuvé d'injures quand j'ai écrit le contrat naturel qui en effet annonçait le droit obligatoire sur l'environnement, etc. Oui, j'ai essayé d'anticiper, mais c'est le travail de la philosophie, que je sache. Le Moyen-Âge a été anticipé par Aristote, l'ère moderne a été anticipée par Descartes, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est la moindre des choses d'anticiper.
Quand vous dites justement, vous avez parlé du contrat naturel, je crois que c'est un texte très très important, mais ce n'est pas un texte de, disons, d'écologie classique, comme on peut l'imaginer. C'est quelque chose d'assez spécial et d'innovateur. Est-ce que vous pouvez juste résumer pour nos auditeurs? Parce que je crois qu'il contient des concepts qui sont assez révolutionnaires pour l'époque. C'était en 90, je crois.
C'est-à-dire, le mot écologie n'est pas du tout prononcé, en effet, dans le contrat naturel. Et j'ai été accusé par bien des gens de répéter ce que disaient les deep ecology américaines. Je ne savais rien de les deep ecology américaines quand j'ai écrit ce livre. Non, c'est un livre de philosophie du droit. Ça n'a rien à voir avec l'écologie, c'est la philosophie du droit. Et la thèse qui est soutenue dans le contrat naturel est toute simple, c'est de dire l'histoire du droit a fait évoluer la notion de sujet de droit. Auparavant, les gens qui avaient droit d'être dans un tribunal, c'était l'adulte mâle de 30 ans, un citoyen romain ou citoyen athénien. Bon. Et évidemment, étaient exclus là les vieillards, les femmes, les enfants, les esclaves, les métèques, etc., les étrangers, tout le monde était exclu. Et l'histoire du droit montre que peu à peu, tout le monde était devenu sujet de droit jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon. Ah oui, mais elle excluait quand même quelque chose, c'était le monde, l'environnement, la nature. Et c'est pour ça que je dis, à partir d'un certain moment, il faut que la nature devienne un sujet de droit. Oui. Et donc le contrat naturel, c'était ça. C'était un livre de philosophie du droit et du droit donné à la nature de pouvoir en effet interjecter dans un tribunal.
Vous avez toujours une vision assez optimiste. Hein, quand vous parlez par exemple de l'omniscience, donc cette idée que l'homme, l'être humain, est en mesure de décider sur la vie, sur sa propre vie, sur sa propre mort, on peut pas se demander, on peut pas éviter de se poser la question quand même si c'est pas un peu inquiétant aussi. Est-ce que vous êtes toujours convaincu, parce que la science peut aussi nous échapper, peut être gérée par des pouvoirs qui ont des intentions évidemment très négatives aussi.
Qui Satan ? Qui dites-moi qui a des intentions négatives ? Et oui, il faut. Et c'est une croyance, en, je sais pas moi.
Avoir des pouvoirs, par exemple, on peut penser la science par les nazis, par exemple.
Ah oui, c'est ça. Bon, d'accord. Alors, écoutez, je crois en effet que. Répétez votre question pour que je sois sûr.
Non, c'est justement cette idée assez positive, hein, que l'omniscience, c'est-à-dire une période dans laquelle on est en mesure de contrôler la vie et la mort, notre vie et notre propre mort. Et puis bon, il y a quand même les dangers, c'est-à-dire le... Voilà.
Alors j'ai deux réponses à cette question. C'est ça, pour ça que je voulais les faire répéter. La première, c'est que depuis 30 ans, 30 ou 40 ans, quand je suis interviewé, je n'ai jamais de question autre que « ne faut-il pas craindre ? Ne faut-il pas s'inquiéter ? Ne faut-il pas avoir peur ? Ne faut-il pas ?» C'est étrange. Et j'ai très envie de poser autour de moi la question « mais pourquoi avez-vous tellement peur ? » N'est-ce pas ? Pourquoi avez-vous tellement peur ? C'est quand même terrifiant. C'est-à-dire au moment où on est en paix complètement, au moment où on a l'espérance de vie accrue jusqu'à 85 ans, alors qu'elle était à 40 ans autrefois. Au moment précisément où la douleur est en train d'être plus ou moins éradiquée, enfin combattue au moins, au moment, etc., le monde crève de trouille. Enfin, les questions crèvent de trouille. Mais c'est étrange, n'est-ce pas ? J'ai envie de vous retourner la question, de vous dire, mais pourquoi sans arrêt ? Bon, alors, la réponse à cette question, c'est justement contenu dans ma réponse. C'est-à-dire, à l'heure précisément où nous sommes en paix, à l'heure où précisément l'augmentation de l'espérance de vie a été énorme, au moment précisément, etc., le côté positif est gigantesque, mais il n'est jamais souligné. Vous voyez ? Évidemment, je suis à peu près le seul à souligner, alors ça, je parais évidemment un hurluberlu. Mais c'est ça être philosophe, c'est paraître un hurluberlu.
Et vous avez inventé beaucoup de personnages, c'est très intéressant. Quand on pense aux personnages dans la philosophie, naturellement, Zarathoustra, etc., plutôt que des concepts, c'est des personnages, des messagers. Est-ce que, voilà, tout d'abord, comment est-ce que vous les choisissez, hein? Il y a Hermès, naturellement, au début, puis il y a le tiers instruit, il y a la petite poussette qui n'a rien à voir avec Andersen, vous le dites. Alors, ce choix, vous vous amusez aussi quand vous vous choisissez?
C'est-à-dire pour deux raisons. La première était déjà dite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la philosophie et la littérature. Bon, ça, c'est la tradition de la langue française. Et d'autre part, un personnage...
Nietzsche était Nietzsche, également.
Oui, mais Nietzsche a toujours dit qu'il était un philosophe français. Vous l'avez remarqué. Il dit, moi, je ne suis pas un philosophe allemand. Mais je suis un... Et un personnage, c'est quelque chose qui contient beaucoup plus de détermination et beaucoup plus d'attributs qu'un concept. Parce qu'un concept, finalement, il est assez limité. Il est jamais imprédictible. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le côté contingent des choses, le côté imprévisible. Et dans un personnage, il y a toujours ce côté inquiétant ou ce côté paradoxal ou ce côté flou, vous voyez. C'est plus concret, finalement, qu'un concept. Alors, Deleuze parle de personnage conceptuel, pas du tout. Il faut que je supprime le mot conceptuel. Ce sont de vrais personnages, ouais, des personnages qui peuvent être rencontrés dans la rue. Voilà. Dans la rue, on peut rencontrer des Hermès, on peut rencontrer des petites poussettes, on peut rencontrer des gauchers boiteux, et ainsi de suite. Voilà.
Tout à l'heure, vous parliez du gaucher boiteux, c'est peut-être moi, vous disiez, mais le tiers instruit aussi, non, hein, c'est cette idée justement, science et littérature.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, pour moi, c'était un personnage à créer, à inventer, à promouvoir. Et hélas, il a complètement échoué. Parce que je vous le disais tout à l'heure, la plupart des gens qui ont la parole aujourd'hui sont exclusivement formés d'un côté et pas de l'autre. Et d'ailleurs, ça donne des résultats que je vous ai dit, c'est-à-dire les problèmes concernant la vérité. Oui.
Il y a une question, quand on pense au grand récit aussi, on arrive dans une, disons, dans un moment historique dans lequel le travail même est remis en question. Vous dites, bon, on est à la fin de la révolution industrielle, le travail tel qu'on le connaît. Oui. Et voilà. Et alors, quand vous posiez la question tout à l'heure, ces peurs, etc. Voilà, ça, c'est une peur aussi. C'est la peur de... Voilà, une peur. Et c'est une sorte d'interrègne. On sait que ce qu'il y avait avant, c'est pas ce qu'il y a dans le futur. C'est un peu que Zygmunt Bauman disait, c'était interrègne, l'incertitude. L'incertitude de quelque chose qui fait peur.
Oui. Vous savez, jadis, les philosophes de l'Antiquité, Saint Augustin, etc., et plus récemment encore à l'âge classique, on se disait Hercule, qui est le grand personnage des grands travaux, que symbolise, si vous voulez, les entreprises humaines, quand il était jeune, avait à choisir entre le chemin du vice et le chemin de la vertu. Vous voyez, il y a même des tableaux du Quattrocento qui représentent Hercule en train d'hésiter entre une femme qui est toujours très bien habillée, qui est la vertu, et l'autre qui est complètement nue, qui est le vice, mais bien entendu. Bon. Mais ce n'est pas ça la question. La vraie question, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Et qu'il n'y a pas de chemin. Et que quand il n'y a pas de chemin, il faut l'inventer, le chemin. C'est ça la question. Voyez. Et c'est pour ça que je parle quelquefois d'imprévisibilité, etc., de difficulté à créer le chemin. Parce qu'en effet, je crois que la vérité philosophique est toujours fonction du volume de travail qu'elle demande pour y accéder. Voyez. Et vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui est inquiétant de...
Non, mais c'est sur la disparition du travail, en fait. Oui. Quand vous posez la question, il y a cette peur qui est un peu partout, mais pourquoi on vit dans une période, etc. Mais bon, ça, c'est une des raisons.
Non, c'est intéressant. Je pense en effet que le travail est en train de disparaître, c'est vrai. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle travail aujourd'hui, puisque l'école bleue ont été remplacées par l'école blanche, comme vous le savez, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent et ils parlent, vous voyez. Est-ce que c'est un travail comme celui du forgeron, du laboureur, etc.? C'est très différent. Bon, et donc là, il y a une révolution numérique qui... Mais voyons, je réfléchis un peu. Quand est née l'idée de travail? Quand est née l'idée de travail? C'est assez récent, le travail posté date de quand? Mais la révolution industrielle. Mais comment on faisait avant? Est-ce qu'il y avait du travail? Ah oui, il y avait du travail, essentiellement paysan. Ah mais qu'est-ce que c'était ce travail? Mais c'était les semailles et les labours. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous voyez, c'était on plantait la vigne, on ramait la vigne, et ensuite on faisait les vendanges. Mais qu'est-ce que faisait entre-temps? Vous voyez. Donc, le travail était des œuvres très très limitées, etc. Le travail continu et posté date, je crois, de la Révolution industrielle. Oui. Et puis d'autre part, dans toutes les langues que je connais, je ne connais pas beaucoup de langues évidemment, mais j'en connais un certain nombre, il y a toujours deux mots pour dire travail. L'avez-vous remarqué ? Il y a travail et œuvre. Il y a labor and work. Il y a Arbeit, etc. Vous voyez, il y a deux, et vers que, il y a toujours deux mots pour dire travail. Et c'est pourquoi je pense que si le travail disparaît, alors peut-être on rentrera dans le chemin de l'œuvre. Vous voyez, c'est-à-dire que le travail sera plus personnel, plus responsable, plus attaché à la personne, plus formatrice du sujet. Voilà, le travail et l'œuvre. Si à la fin du travail, peut-être que ça sera l'ère de l'œuvre.
Voilà, et c'est le monde qui attend petite poussette, quoi, un monde qu'on connaît à peine pour l'instant.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on est entré dans un monde tellement nouveau qu'avec beaucoup de lucidité, on peut essayer de voir sa nouveauté par rapport à ce qui était avant, mais dire vers où cela va aller, c'est extrêmement difficile. Voilà, il faut vous adresser à Madame Soleil pour ça. Voilà.
Je trouvais très sympathique le choix du nom Petite Poussette, hein, parce que vous avez vu qu'il y a une génération qui écrit avec les pouces.
Et c'est-à-dire qu'on a fait même une statistique depuis, et qui m'a fait beaucoup rire, une statistique où on s'est aperçu que les gens au-dessus de 30 ans tapent sur leur smartphone avec l'index. Ce qui est mon cas d'ailleurs, oui. Et que les gens plus jeunes tapent avec les deux pouces, pas seulement avec un pouce, mais avec deux pouces, ce qui demande une dextérité que je suis loin d'avoir, vous voyez. Et par conséquent, Petite Poussette est bien nommée, c'est la génération du pouce, et même des deux pouces. Et je l'ai appelée Petite, au féminin d'abord, et ensuite Petite, parce qu'elle était de génération plus jeune d'abord, et puis au féminin, parce que mon expérience de professeur montre assez que les femmes aujourd'hui sont supérieurs aux hommes en matière de travail, en matière de sérieux, en matière de professionnalité, etc. Et mes meilleurs étudiants ont toujours été des étudiantes. Voilà. Et donc j'ai fait hommage à Petite Poussette.
Voilà. Encore quelques questions. Votre rapport, c'est la question qu'on vous a déjà posée plusieurs fois, mais ça m'intéresse, avec la religion. Parce que vos livres sont pleins de références religieuses, la Bible en particulier, le Nouveau Testament. Et donc c'est quelque chose d'important pour vous, tout en étant pas pratiquant. Votre père était, je crois, athée, et puis après la guerre, la Première Guerre mondiale, il est devenu croyant. Et vous-même, quel rapport avec la religion ? C'est un instrument intellectuel important quand même, hein, les
oui,
textes.
Oui. Non, la Bible est une sorte de boîte à outils anthropologique inépuisable, évidemment. Et je me sens libre de puiser dans la Bible ce qu'on peut puiser aussi bien chez Platon, Aristote ou Leibniz. Vous voyez, bon, ça c'est un premier point, mais c'est pas ça la religion. J'avais parlé tout à l'heure de Pascal, vous vous rappelez, qui d'un côté avait dit la relativité des opinions, etc., qui ensuite avait été un mathématicien, mécanicien de bonne valeur, c'est-à-dire des sciences, mais il y a un troisième moment, il n'y a pas que les deux bouts chez Pascal, il y a le troisième qui est la religion. Alors effectivement, je crois que pour faire une philosophie complète, il faut aussi non seulement faire une philosophie de l'art, ce que j'ai tenté de faire en musique, peinture, etc., mais aussi une philosophie de la religion. Et si c'est un secret que je dois vous dire, je crois que mon prochain livre sera sur ce sujet.
Voilà, donc on va le lire avec beaucoup d'intérêt. Et toute dernière question est sur... il y a une chose qui me fascine, c'est que vous avez réussi dans votre vie à ne pas être influencé ou ne pas être inscrit dans une école de pensée. Vous citez Althusser, mais Foucault aussi, le structuralisme, c'était quand même les années 60, par exemple, des années où c'était j'imagine, très, très difficile d'être libre.
Oui, ça a été pour moi très difficile. D'ailleurs, ça s'inscrit tout à fait dans la communauté philosophique, puisque j'ai enseigné en philosophie jusqu'à un certain temps, et puis j'ai été exclu de la philosophie. J'ai enseigné en histoire, c'est-à-dire on m'a plus toléré dans le département, Donc c'est pour ça que j'ai fait une carrière américaine, etc. Bon. Enfin bon, tout ça c'est passé, c'est perdu, j'ai tout oublié. Mais en effet, c'est difficile d'être seul. Voilà, c'est difficile d'être seul. J'avais l'impression, si vous voulez, que je devais faire ce que j'ai fait. Bon, mais c'est l'avenir qui dira.
Vous aviez quand même un rapport bon avec Lévi-Strauss, je crois. Hein. Quand on parle du structuralisme, oui. On pense à Lacan, Foucault, Althusser même. Hein. Mais avec Lévi-Strauss, qui restait un très grand anthropologue.
Attendez une minute. Il faut parler là du structuralisme, en effet. Lorsqu'on disait que Lacan, Foucault, etc., des structuralistes, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire, d'abord pour commencer. Parce qu'une structure, moi je suis absolument algébriste, je peux être algébriste, et la grande nouveauté de l'algèbre moderne, c'était l'idée de structure. Et ça, c'était moderne. C'est-à-dire, c'était des définitions parfaitement claires et distinctes en mathématiques pour voir ce que c'était qu'une structure qui était invariante par variation selon les disciplines. Et c'était ça, pour moi, une structure. Et je crois que presque Dumézil était plus structuraliste que tous les autres, sans jamais avoir tenté de l'être, vous voyez ce que je veux dire. Et dans le cas des sciences humaines, y compris chez Lévi-Strauss d'ailleurs, il ne s'agit pas du tout de cette structure-là. Il s'agit de la manière d'être construit, c'est-à-dire là. Comment dire, le sens presque ordinaire du mot structure. Non, le sens révolutionnaire du mot structure était en algèbre, et c'est celui-là que j'ai essayé, moi, d'appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression que ce n'était pas des structuralistes au sens contemporain du terme.
Alors, j'ajoute une vraiment toute dernière question sur le livre que vous avez écrit à propos de vos chroniques, je crois que c'est France Inter, hein, avec Michel Polaco. Il y a une chose qui m'a touché, et j'ai essayé de faire cet exercice. Vous dites, on parle beaucoup du corps, etc., contre le vieillissement, donc toute cette mode de la gymnastique, etc., mais très peu du cerveau. Et vous conseillez donc de lire quelque chose de toujours plus difficile, oui. Non? C'est une bonne... J'essaye de l'appliquer, non? Mais c'est assez important, je crois.
Oui, c'est intéressant parce que lorsqu'un médecin vous dit que quel type de vie faut mener, et il vous dira volontiers, et il faut faire de l'exercice tous les jours, et ils ont raison. Il faut faire au moins une heure et demie de marche tous les jours, quelles que soient les circonstances, c'est très bien. Si vous allez voir un esthéticien, il va vous arranger un peu les seins, le nez, etc. C'est très cher, mais ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Tandis que l'exercice physique, c'est gratuit, et ça sert un peu à quelque chose, mais on oublie toujours la chose suivante. J'étais ami autrefois avec l'entraîneur de l'équipe de France de ski vétéran. Je ne savais pas qu'elle existait, et elle existe. Et les gens ont 60 ans et au-delà, vous voyez. Et l'entraîneur me disait, du point de vue cardiaque, c'est bien, du point de vue musculaire, c'est bon, du point de vue physique, en général, ils s'en sortent pas mal, il n'y a pas de problème, mais voilà, ils oublient l'ordre des portes. Donc ça se passait dans la tête. Et je lui ai répondu, mais ça s'exerce autant que le muscle ou la souplesse. Donc tu vas alors les obliger à apprendre par cœur une fable à Fontaine tous les 3 jours. Oui. Alors il l'a fait, et en effet il n'oubliait plus toutes les portes. C'est-à-dire que précisément la mémoire, ça s'exerce autant que les muscles ou que le souffle, vous voyez.
C'est quelque chose qu'on oublie. Hein.
Et alors on oublie, et j'ai souvent remarqué que la vieillesse vous atteignait beaucoup plus dans la tête, si vous voulez, entre guillemets, si vous voulez, que dans le corps. Le corps vieillit, bien sûr, mais à certains égards, la tête vieillit plus vite encore. Il faut vite l'exercer, je crois. Et exercer la tête, ça, non seulement ça vous rend plus jeune, mais plus gai. C'est-à-dire...
Pour vous, le bonheur, c'est quelque chose d'important. Ça se sent.
D'être gai, voilà, c'est ça. Et je crois que parmi les gens que j'ai connus, les plus vieux et les plus gais, c'est des gens qui lisaient, en effet, c'est le conseil que je donne. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.